Merci pour ce chant. Un homme, un jour, s'est introduit dans une maison. Cambrioleur. Vous n'avez jamais été cambriolé? Je le souhaite à personne. Redoutable. Et voici que pendant qu'il cambriolait la maison, la famille est revenue. Et lui, il s'est caché sous le lit. Il n'y a pas de solution. Et il est resté un bon moment sous le lit. Et la famille était dans la chambre, assise sur des chaises, assise sur le lit. Et le père de la famille parlait de l'Évangile à ses enfants. Et le voleur était sous le lit. Et le père de famille priait avec ses enfants. Et le voleur était sous le lit. Alors quand la famille est partie, le voleur est sorti, il a laissé tout ce qu'il pensait prendre, il a été bouleversé, il est devenu chrétien. Le voleur prie par Dieu. Ça, c'est une histoire de notre temps. Je voudrais vous lire une petite lettre de l'apôtre, épître à Philémon, pour vous dire aujourd'hui l'histoire, l'itinéraire d'un voleur surpris par Dieu. Mais je pense qu'à la place de voleur, je pourrais mettre tous les noms, tous les péchés. Nous étions comme lui, nous avons fait des choses pas très honnêtes, et un jour Dieu a mis sa main sur nous. Alors nous allons lire l'épître à Philémon, qui se trouve dans le Nouveau Testament, vers l'épître aux Hébreux, pas loin. Si vous ne trouvez pas, je fais la lecture. Si vous n'avez pas la Bible, je fais la lecture et nous allons réfléchir, méditer et annoncer Jésus qui nous saisit. Philémon, il n'y a qu'un chapitre et on va lire à partir du verset 10. Vous n'allez pas peut-être tout comprendre, mais c'est l'explication après qui va vous faire revenir au texte. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes. C'est l'apôtre Paul qui parle. Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. Voilà comment un père parle de son enfant spirituel. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Mets-le sur mon compte. Je vais te payer. Je vais te payer pour lui. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai. Pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Amen. Qui parle ici ? Un prisonnier. Un prisonnier de l'empereur de Rome, Néron, un dictateur, une brute, l'incendiaire de Rome. Mais Paul ne dit pas « je suis prisonnier de Néron », mais il dit « je suis prisonnier de Jésus ». Je suis prisonnier pour Jésus, avec Jésus. Paul, à l'époque, est déjà très âgé, prématurément vieilli, fatigué. Il parle comme un vieillard et il écrit à un de ses amis, Philémon, retenez le mot, Philémon, qui est un chrétien en Turquie, dans la ville de Colosse. C'est un homme, ce Philémon, un des premiers chrétiens de l'histoire. Un homme qui a été changé par Jésus-Christ. Un homme qui est devenu enfant de Dieu. Un tel point que dans sa petite maison, ou sa grande maison, il y a une petite église avec des gens libres, esclaves à l'époque. On ne disait pas serviteur, ouvrier, on disait esclave. Dans sa maison, il y a des gens qui viennent pour des cultes, des gens libres, des gens esclaves. Parce que Philémon, il connaît Dieu. Et quand on connaît Dieu, on voudrait le communiquer aux autres. Et Philémon, qui connaît la paix de Jésus, l'amour de Jésus, l'espérance avec Jésus, Philémon qui est lucide sur la suite, après, il a parlé à ses ouvriers, entre guillemets, à ses esclaves. Mais un esclave, c'était un ouvrier qui était toute sa vie au service d'un maître, qui le nourrissait, qui le logeait, qui le blanchissait. Voilà, c'était ça. Alors il avait dans sa petite église de maison, il avait des gens. Oh, il y en avait un, pas très facile, caractère ombrageux, un peu emporté, peut-être facilement en colère, marginal. Peut-être qu'il se cachait derrière la tête de son voisin de devant quand Philémon parlait. Il baissait les yeux, il n'écoutait pas. Il n'écoutait pas, fermait les yeux. Cet homme s'appelle Onésime. Et cet homme, il aurait voulu secouer ce joug qui est sur lui d'esclavage. Il aurait voulu vivre autre chose, la liberté. Eh bien, se dit-il, pour arriver à la liberté, je vais devenir voleur. Qui je vais voler ? Mon patron, Philémon, qui est un chrétien exemplaire, chrétien comme le premier siècle en avait de magnifique. Et quand il écoutait Philémon qui lui parlait de la liberté en Jésus-Christ, de la vie nouvelle, du ciel, du jugement dernier, Onésime, il fermait les oreilles. Il voulait s'offrir lui-même une vie meilleure. Il voulait s'offrir lui-même sans recevoir de Dieu et de personne. Savez-vous que le mot « exister » veut dire « venir de quelqu'un » ? On n'existe pas tout seul. On existe parce qu'on vient de quelqu'un. On vient d'un père, on vient d'une mère, on vient de Dieu. Philémon voudrait faire sa vie tout seul. Pas Philémon, Onésime, pardon, l'esclave là, qui ferme les yeux quand son maître prêche. Il voulait voir Rome. Quand on était enfant, on avait un rêve dans la tête qui tournait. Ah, on voulait voir Paris. Un jour, j'ai failli y aller, mais je ne suis pas allé. Voilà. On était à une centaine de kilomètres et on n'a jamais vu Paris de notre enfance. Bon. Lui, il voulait voir Rome au bout du monde. Changer d'endroit, changer de vie. Vous savez que cette pensée, elle est en nous, inscrite profondément en nous. On voudrait du changement. Un roi de l'Ancien Testament disait, un roi, pas un esclave, « Si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, j'irais au bout de la mer et je trouverais du repos. » On aspire à du changement. Changement de maison, changement de ville, même certains changements de femme. On voudrait du changement dans sa vie. Et même quand on trouve quelque chose de bon, on voudrait que ça change parce qu'on est vite fatigué de tout, même de ce qui est bon. Et on voudrait toujours quelque chose de nouveau. Mais vous le savez, le changement de famille, le changement de Dieu même, le changement de monde n'apporte pas forcément le bonheur. Alors revenons à Onésime, l'ouvrier, l'esclave. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de liberté. Mais vous savez ce qu'il va faire ? Un certain matin, il va aller prendre dans la caisse de son patron l'argent nécessaire et hop, le voilà parti pour Rome, traversant toute la Grèce, prenant peut-être le bateau, faisant des centaines de kilomètres, comme le fils prodigue, c'est notre fils prodigue d'aujourd'hui. À Rome, oh, quelle découverte! Il s'amuse, il vit dangereusement. Si je l'avais rencontré dans les rues de Rome, je lui aurais posé la question « Je ne te demande pas de quoi tu es libre, mais pourquoi tu es libre ? Pourquoi tu es libre ? Qu'est-ce que tu vas faire de ta liberté ?» Il s'amuse, il dépense l'argent de son maître, il perd le sens du jugement, il ne sait plus très bien ce qu'il fait, le sens du bien, le sens du mal, le danger, la responsabilité, la fragilité de la vie. Dangereux la vie, hein ? Il n'est plus l'esclave de Philémon. Il est esclave de ses ivresses. Il ne fuit pas Philémon, mais il fuit Philémon. Mais on ne peut pas fuir son mauvais caractère. On ne peut pas fuir son mauvais cœur. Ça colle à la peau. Il a pris le large, mais il est dans un filet et il ne s'en sort pas. La drogue l'attend. L'alcoolisme, la délinquance, la violence, tout l'attend. Le petit refrain revient. Et l'argent vint à manquer. Et l'argent vint à manquer. Poche vide, poche trouée. Il ne sait plus retrouver son chemin. Il est à 2000 kilomètres de sa maison. Que va-t-il faire ? Il n'a qu'une solution, pas deux, il n'a une solution. Voler. Encore voler. Devenir escroc. Vivre chaque jour dans cette vie qui n'est pas une vie. Il est pire qu'un esclave. Il va entreprendre une vie dangereuse pour survivre. Il vole ici, il vole là. Il évite pendant un certain temps les pièges, comme le renard rusé qui évite les pièges. Et un jour, quelqu'un met sa main sur son épaule et lui dit « Jeune homme, suivez-moi au commissariat. » Vous avez tout compris. Force de voler. « Jeune homme, suivez-moi au commissariat. » Il est pris, jeté en prison. Et à l'époque, en prison, on avait des chaînes aux pieds et des chaînes aux mains. Et en prison, l'horreur. Chez son patron, c'était le paradis. Là, c'est l'enfer. Il est à côté d'un vieillard à côté d'un homme, l'apôtre Paul, à côté de lui. Extraordinaire. Il se retrouve en face de l'Évangile. Parce que quand on écoute Paul, quand on voit cet apôtre, toute sa vie parle de l'Évangile. Il a tourné le dos à Dieu autrefois, et là il se retrouve face à l'Évangile. Il a tourné le dos à Jésus-Christ qui l'appelait, et maintenant le Christ lui ouvre ses bras en prison avec l'apôtre Paul. Dieu suivait Onésime, l'esclave migrant, fuyard, voleur. Dieu nous suit. Dieu est derrière nous, devant nous, partout. Il nous voit. L'Ancien Testament dit, hein, David disait autrefois, « Si je vais aux extrémités de la terre, pour dire, je ne veux plus entendre parler de lui. Seigneur, tu es là. Si je monte au ciel, Seigneur, tu es là. Si je me couche dans le tombeau, Seigneur, encore toi, toujours toi. » Une histoire vraie, l'histoire d'un chauffeur de taxi. Sa mère était chrétienne, protestante. Et sa mère lui parlait toujours de Jésus-Christ, de l'Évangile. Et ce jeune homme, chauffeur de taxi, a dit un jour à sa mère, « Maman, je t'aime bien. La prochaine fois que tu me parles de Jésus-Christ, de l'Évangile, je m'en vais. Je m'en vais. » Le matin, au petit déjeuner, sa mère recommence. « Écoute-moi bien sur l'Évangile. Écoute-moi bien sur Jésus-Christ. » Ben, notre chauffeur de taxi, il a pris sa valise et il est parti. Il a quitté sa place, il a quitté sa ville. Il est parti dans une autre ville chercher un travail pour fuir sa mère qui lui lavait le cerveau. Il a trouvé un emploi, formidable quand même, hein. Il s'est retrouvé, comme il savait bien conduire, chauffeur d'un grand patron. Magnifique. Vous en êtes bien sorti, hein. Premier matin où il va au travail, le chauffeur lui dit, « Permettez, jeune homme, je vais m'asseoir à côté de vous. » Excusez-moi. Le patron lui dit, « Permettez, je m'assois à côté de vous. » Le chauffeur, là, était très honoré. Il s'est dit en lui-même, « Il faut que je montre à mon patron que je sais bien conduire ma voiture dans les situations les plus difficiles. » En général, le patron, il est derrière. Et là, il s'est mis à côté. Et le patron a dit, « Jeune homme, j'ai quelque chose à vous demander. Connaissez-vous Jésus-Christ ?» Il a écrit à sa mère, « Maman, Jésus me suit partout. » Dieu nous cherche en toutes circonstances. Dieu nous cherche dans les abandons que nous vivons au milieu familial. Et nous disons, personne ne s'intéresse à moi. Dieu nous cherche quand nous sommes en échec professionnel, quand nous sommes en maladie et que les gens se fatiguent de nous. Et là, il se retrouve devant l'apôtre Paul, Onésime, l'esclave. Devant son maître très riche, Philémon, le petit Onésime a pu dire, « Ouais, c'est facile d'être chrétien quand on est riche, capitaliste. » Mais en prison, il a devant lui un apôtre, esclave dans les chaînes, prisonnier, qui disait, « J'ai appris à vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'humiliation. Je me plais en toutes choses. » Cet homme-là est chrétien, pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il a quelque chose de plus dans son cœur. Il a Jésus-Christ. Et Philémon, il voit, pas Philémon, Onésime, pardon, il voit cet apôtre qui n'arrête pas d'écrire, parce qu'il a des amis, des églises, il écrit, et il prie à voix haute, et de temps en temps, il prie pour son patron, Philémon. Et dans ses prières, il doit dire, « Seigneur, je te prie pour mon ami Philémon et pour tous ceux qui sont dans sa maison. » Et Onésime, qui vient de chez Philémon, qui a volé Philémon, son patron, qui a trompé tout le monde, il doit se sentir sale, méchant loup, vaurien, voleur. Quand il voit cet homme à côté de lui, rempli de foi, de prière, il doit se dire, mais je suis moins que rien. Il a trois dettes, Onésime. Il a une dette envers la société romaine. Bon, ça, peut-être qu'il peut le payer. Il a une dette envers Philémon, son patron. Peut-être qu'il pourra payer un jour. Mais il a une dette envers Dieu. Car quand on fait du mal à quelqu'un, on fait du mal à Dieu. Si tu blesses ton père, tu blesses Dieu. Si tu blesses ta femme, tu blesses Dieu. Et là, comment réparer? Comment réparer ce qu'il doit à Dieu? Que voulez-vous faire pour changer votre relation avec Dieu? Il se sent perdu. Il ne peut pas effacer un passé qui l'accuse et qui lui dit, Onésime, tu n'es bon à rien. Tu fais que des bêtises. Je pense que Paul, en prison, a dû lui raconter son expérience, sa conversion. Et Paul, quand il parle de conversion dans ses épîtres, il dit toujours « autrefois, maintenant, autrefois, maintenant, il y a un avant, il y a un après. » Et il a dû lui raconter comment le Seigneur a arrêté l'apôtre Paul qui avait de la haine contre les chrétiens. Il voulait massacrer les chrétiens. Et l'apôtre Paul a été arrêté par Jésus. Et Jésus lui a dit sur le chemin, Saul, c'était son ancien nom, pourquoi me persécutes-tu? Ça a bouleversé Paul. Ce qui veut dire, en voulant toucher les chrétiens, en voulant toucher mes serviteurs, en voulant toucher mon église, tu me fais mal à moi. Tu me fais mal à moi. Et Onésime s'est retrouvé dans cette histoire. Il s'est dit, ben moi aussi j'ai fait mal à Dieu. J'ai volé mon maître, je me suis enfui, je suis un vagabond, j'ai fait du mal à Dieu. Et je pense que Paul, il a dû raconter à Onésime le sens de la croix. Pas seulement dire Jésus est mort sur une croix, mais pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort sur une croix? Et quand il écrit, Paul, l'apôtre, quand il écrit, si ton serviteur t'a fait quelque chose de mal, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte, je te paierai. C'est ça la croix. On a fait du mal à Dieu et Dieu l'a mis sur le compte de Jésus. L'offense qui a touché Dieu, Dieu l'a fait porter par Jésus. Il l'a réglé avec Jésus. Et Onésime, le fugueur, le voleur, le vagabond, le petit poussé qui ne retrouve plus son chemin, Onésime, il a découvert le Christ en prison, comme le brigand sur la croix dans la nuit de Golgotha a découvert Jésus à côté de lui. Lui qui se croyait aimé par personne, lui qui se croyait perdu, il a découvert en écoutant l'apôtre Paul que Dieu l'aimait. Seigneur, je t'ai fui et tu me cherchais. Je t'ai fui et tu m'as rattrapé. J'étais voleur et tu m'as saisi. C'est une nouvelle vie. En prison, n'y a pas d'orchestre, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de concert, il n'y a rien. En prison, à deux, là, Paul, Onésime vit une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Un matin, on lui dit, jeune homme, écoutez bien, vous êtes libre. Vous avez fait assez de temps en prison, vous êtes libre. Et Paul lui dit, retourne vers ton maître. Oh, c'est pas possible ça. Retourne vers quoi? L'esclavage. Retourne vers ton maître Philémon et je veux te donner une petite lettre pour ton maître parce qu'il avait peur de retourner. Et l'apôtre Paul écrit à Philémon, son ami, reçois-le, ce fugueur, reçois-le, ce voleur d'Onésime, pas comme un esclave, reçois-le comme un frère, qu'il te sera utile. Il t'a été inutile, il te sera utile. Alors voyez-vous, mes amis, l'important n'est pas de changer, mais de se changer, que Dieu nous change. L'important n'est pas de changer de trottoir, mais l'important c'est de devenir une nouvelle création par Jésus-Christ. C'est ça qui fait toute la vie. Jésus disait dans l'Ancien Testament, mais c'est lui qui parle quand même, il parle toujours, « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair, en cœur humain. Onésime a découvert Jésus. Il faut le découvrir, pas le Jésus seulement d'hier, en disant « c'était hier », mais un Christ qui est toujours le même, hier, avec Bartimée, avec la Samaritaine, avec les enfants, les aveugles, les boiteux. Hier, il est le même. Aujourd'hui, il sera toujours le même. Il faut découvrir le Christ avec cette nouvelle connaissance qu'il n'a jamais changé. Il ne changera jamais. Si vous l'appelez, il viendra à votre secours. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'appelez, il vous répondra. Il ne change jamais. Le monde change, Dieu ne change pas. Vous savez ce que veut dire au fait Onésime, le nom de cet esclave-là? Cela veut dire utile. Ses parents, quand il est né, ont dit, « Oh, ce beau petit garçon-là, on va l'appeler d'un nom magnifique, utile. » Joli, hein? Ma grand-mère me disait toujours, « Rends-toi utile, fais quelque chose, reste pas les deux pieds dans le même sabot. » Fais quelque chose, rends-toi utile. Mais Onésime, toute sa vie, il a été inutile, il a fait des bêtises, mais il a retrouvé son nom, son premier nom, sa première vocation, le premier sens de sa vie. Et le premier sens de notre vie, c'est de vivre pour Dieu, avec Dieu, comme Jésus. Il a changé de vêtements. Jésus compare notre nouvelle vie à un vêtement. Et il dit, quand un vêtement commence à s'user, on ne met pas un morceau ici, un morceau là, un morceau plus loin. On ne rapièce pas un vieux vêtement. On change de vêtement. Et Jésus semble dire, c'est ainsi dans votre vie. Dieu ne fait pas du rafistolage. Je vous parle encore de ma grand-mère. Quand on avait un trou à nos chaussettes, elle raccommodait au maximum. Le trou se refaisait, elle raccommodait toujours. Nos chaussettes duraient des années à ce tarif-là. Lui, le Seigneur, voyez-vous, il est plus moderne. Lui, il ne nous propose pas des réparations, à droite, à gauche, il nous propose une création, un tissu neuf. un cœur neuf, un vêtement neuf. Moi, j'ai comparé Onésime au fils prodigue qui revient vers son patron, vers son père adoptif, son père d'adoption. Il est revenu tout timide, mais regardez quand même la beauté de Philémon, le pardon envers ce voleur, l'accueil, la confiance. Il l'embrasse comme un frère, il n'est plus esclave, il est frère. Et le Seigneur, nous étions des ennemis, nous sommes devenus amis. Nous étions loin, il s'est approché de nous. Il a changé la relation. Quand je l'appelle, je ne lui dis pas seulement Dieu, Dieu terrible, je lui dis notre Père, parce que c'est le vôtre aussi, qui est aux cieux, que ton règne vienne sur moi. Retour d'un fils prodigue. Je crois que le fils prodigue, quand il est revenu vers son père et quand il a dit « Je vais dire à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Mais je pense que quand il a dit ça à son père, c'est qu'il savait que son père le recevrait. S'il avait pensé que son père ne l'aurait jamais reçu, il ne serait jamais revenu. Et moi, je peux vous dire, vous pouvez demander pardon parce que le pardon, il vous est donné. Vous pouvez demander la vie parce que la vie, vous l'avez et vous l'aurez. Y a-t-il parmi nous des Onésimes qui sont partis comme le fils prodigue, comme cet esclave, sur deux dans la vie et se sont retrouvés seuls? Leur femme les a quittés, leurs enfants sont partis. Peut-être qu'ils ont perdu des amitiés, la santé, une joie de vivre, une fraîcheur de vie, une spontanéité. Ils ont perdu le sourire, l'innocence. Revenons à Dieu qui pardonne. Retrouvons la prière et la lecture des Écritures. Dieu est proche de nous. Il nous suit en Turquie, à Rome, à Rennes, partout. On le croit loin derrière, il est près de nous devant. On le croit absent, il est à la porte de notre cœur, il frappe. Dieu nous cherche, Dieu veut nous trouver. Nous allons prier le Seigneur. Sommes devant le Seigneur, qui a pris sur son compte, à son compte, de régler le problème du mal dans notre vie. Il l'a pris sur son compte, il l'a pris sur la croix. C'était très grave, c'était pas des histoires pour enfants, c'est la plus grande tragique histoire de l'humanité et de chacun. Le problème du péché, du mal. Et nous sommes, nous, partis. Mais aujourd'hui, nous allons revenir. Je te prie, Seigneur, afin que, en écoutant l'Évangile, nous prenions le chemin du retour, le chemin de la foi, le chemin que tu nous as tracé et qui nous ramène vers le cœur du Père. Nous étions dans l'ivresse, la folie, éloignés de toi, ennemis même par nos pensées mauvaises. Mais aujourd'hui, tu nous attires à toi et tu nous dis « Je t'aime d'un amour éternel, ne promène pas des regards inquiets. » Je suis avec toi. J'ai connu ta détresse quand tu étais seul dans ta souffrance. Dieu nous cherche et nous voulons lui demander qu'il nous saisisse. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas par un hasard. Si vous avez rencontré le Christ, l'Évangile, il n'y a pas de hasard. Dieu vous cherche. Il y a eu des circonstances difficiles, Dieu était là. Parfois, même la vie vous a échappé, Dieu était là. La santé, tout à coup, est partie, Dieu était là. Vous ne sentez plus le soutien de vos enfants, de votre mari, de votre femme, Dieu est là. Dieu est là comme il était avec Onésime, jusque dans la prison. Dieu est avec nous. Il ne s'éloigne pas. Il ne part pas. Saisis-toi de nous, Seigneur. Prends-nous par la main et ramène-nous. Nous t'en prions. Amen. Ramène-nous dans la vie. Amen. Nous restons quelques instants devant le Seigneur. Je pourrais vous demander, mais ne me répondez pas. Où êtes-vous? Où en êtes-vous? Allez-vous continuer votre chemin sans lui? Allez-vous profiter de la vie sans avoir la vie en vous? Où en êtes-vous? Le Christ nous appelle. Sans moi, tu ne peux rien faire. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés par la vie. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Venez à moi aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur pour ceux qui ont besoin, ceux qui sont encore trop loin, ceux qui cherchent, ceux qui veulent trouver le sens de la vie, ceux qui ont un fardeau de maladie sur le cœur, dans l'esprit, ceux qui se heurtent à un mur d'impossibilité. Je prie, je vous invite à vous approcher si vous le souhaitez. Je vous impose les mains un instant. Et pendant ce geste symbolique qui représente Jésus qui vous prend en main, comme il a pris en main Onésime, je crois qu'il va se passer quelque chose. Car Jésus ne change pas. Je crois profondément en lui.